Chapitre 47. Samedi 19 décembre, l'après-midi. Simone est installée à côté d'Eric dans la voiture. Elle le regarde de temps à autre, puis reporte son attention sur la route. La route et sa bande de neige brunie fondue au milieu défilent. Les voitures avancent devant eux comme les maillons lumineux d'une chaîne sans fin. Les réverbères se succèdent à un rythme monotone. Elle ne dit rien du fatras sur les sièges arrière et à ses pieds. Bouteilles d'eau vides, canettes de soda, cartons de pizza, journaux, gobelets, serviettes, paquets de chips vides et emballages de bonbons. Eric conduit prudemment en direction de l'hôpital d'Anderid où se trouve Sim Schulman dans le coma. Il sait exactement ce qu'il va faire en arrivant. Il jette un œil sur Simone. Elle a perdu du poids et les commissures de ses lèvres sont tirées vers le bas dans un mélange de tristesse et d'inquiétude. Quant à lui, il se sent presque trop concentré. Les événements de ces derniers jours lui apparaissent sous une lumière froide et crue. Il croit comprendre les circonstances qui entourent ce qui est arrivé à sa famille. Avant de passer le quartier Kreftriket, il commence à l'expliquer à Simone.
Quand on a compris que ça ne pouvait pas être Joseph qui avait enlevé Benjamin, Yona m'a demandé de fouiller dans mes souvenirs, dit-il, brisant le silence qui régnait dans la voiture. Et j'ai commencé à chercher dans ma mémoire une personne qui soit susceptible de vouloir se venger de moi.
Qu'est-ce que tu as trouvé ? Demande Simone.
J'ai retrouvé le groupe d'hypnose que j'ai laissé. C'était il y a 10 ans à peine. Mais je ne pense jamais à eux. C'est un chapitre clos de ma vie, dit-il. Mais quand je me suis mis à y repenser, ça a été comme si le groupe n'avait jamais disparu, comme s'il m'attendait sur le bas-côté.
Eric voit Simone hocher la tête. Il continue de parler, tente d'expliquer ses théories sur le groupe d'hypnose, les tensions entre les personnes, l'exercice d'équilibrisme auquel il s'est lui-même livré et la confiance trahie.
Quand je me suis aperçu de mon échec, je me suis fait la promesse de ne plus jamais pratiquer l'hypnose. Et puis, j'ai rompu cette promesse parce que Yona m'a persuadé que c'était le seul moyen de sauver Evelyn Heck.
Tu crois que c'est à cause de ça, le fait que tu l'aies hypnotisé, tout ce qui nous arrive ?
Je ne sais pas.
Eric s'interrompt, puis dit que cela a pu réveiller une haine latente, une haine qui n'était peut-être contenue que par sa promesse de ne plus jamais hypnotiser.
Tu te souviens d'Eva Blow, poursuit-il. Elle naviguait à la frontière de la psychose. Tu sais qu'elle me menaçait. Elle disait qu'elle allait détruire ma vie.
Je n'ai jamais compris pourquoi, dit Simone tout bas.
Elle avait peur de quelqu'un. Je pensais qu'elle était paranoïaque, mais maintenant je suis quasiment sûr qu'elle était réellement menacée par Lydia.
Même les paranoïaques peuvent être persécutés, dit Simone.
Eric tourne vers l'hôpital d'Anderid. La pluie s'abat sur le pare-brise.
C'est peut-être même Lydia qui lui a entaillé le visage, dit-il comme pour lui-même.
Simone bondit.
Elle avait le visage entaillé ? Demande-t-elle.
Je croyais qu'elle se l'était fait elle-même, c'est généralement le cas, dit Eric. Je pensais qu'elle avait coupé le bout de son nez dans un besoin désespéré de sentir autre chose, d'échapper à ce qu'était sa véritable douleur.
Attends, attends un peu, dit Simone bouleversée. Son nez était coupé ?
Le bout du nez.
Papa et moi, nous avons trouvé un garçon avec le bout du nez coupé. Papa te l'a raconté ? Quelqu'un avait menacé le garçon, lui avait fait peur et l'avait maltraité parce qu'il avait tracassé Benjamin.
C'est Lydia.
C'est elle qui a enlevé Benjamin ?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle veut ?
Eric lui adresse un regard grave.
Tu connais déjà une partie de l'histoire, dit-il. Lydia a avoué sous hypnose qu'elle tenait son fils Casper enfermé dans une cage à la cave et le forçait à manger de la nourriture putréfiée.
Casper ? Répète Simone.
Quand vous avez raconté ce qu'Aïda avait dit, qu'une femme appelait Benjamin Casper, j'ai su que c'était Lydia. Je me suis rendu chez elle à Rotebro et j'ai forcé l'entrée. Mais il n'y avait personne, la maison était abandonnée.
Il longe rapidement les files de voitures garées, mais il n'y a pas de place. Il avance alors vers l'entrée.
La cave avait brûlé, mais le feu s'était éteint tout seul, poursuit Eric. Je suppose que l'incendie était volontaire, mais il restait encore les débris d'une grande cage.
Mais il n'y avait pas de cage, dit Simone. Ils avaient prouvé qu'elle n'avait jamais eu d'enfant.
Yona a fait venir un chien renifleur qui a retrouvé les restes d'un enfant dans le jardin. Ça faisait 10 ans qu'il était là.
« Mon Dieu !» murmure Simone.
« Oui. »
« C'était à l'époque où... »«
Je crois qu'elle a tué l'enfant dans la cave quand elle a compris qu'elle était démasquée, » dit Eric.
« Alors tu avais raison depuis le début, »
chuchote Simone.
« On dirait bien. »
« Tu crois qu'elle veut tuer Benjamin ?»«
Je ne sais pas. Elle considère sans doute que tout est ma faute. Si je ne l'avais pas hypnotisée, elle aurait pu garder l'enfant. »
Eric cesse de parler et repense à la voix de Benjamin quand il l'a appelé. Les efforts qu'il faisait pour ne pas avoir l'air effrayé et la façon dont il avait parlé de cette maison hantée. Il devait s'agir de la maison hantée de Lydia. C'était là qu'elle avait grandi. C'était là qu'elle avait commis ses sévices et avait sans doute été abusée. Si elle ne l'avait pas amenée à la maison hantée, elle pouvait l'avoir emmenée n'importe où.
Il gare la voiture devant l'entrée principale de l'hôpital d'Anderide sans se préoccuper de fermer les portes ou de payer le parking. Il se hâte en direction de la grande fontaine couverte de neige, passe quelques fumeurs grelottants en robe de chambre, emprunte les portes chuintantes et prenne l'ascenseur jusqu'au service où se trouve Sim Schulman. Une odeur lourde plane dans la pièce à cause de toutes les fleurs. De grands bouquets parfumés ornent le rebord de la fenêtre. Une pile de cartes et de lettres d'amis bouleversées se trouve sur la table. Eric regarde l'homme dans le lit, les joues affaissées, le nez, les paupières. Le mouvement bien trop régulier du ventre suit le rythme sifflant du respirateur. Il se trouve dans un état végétatif permanent, maintenu en vie par des appareils dont il ne pourra plus jamais se passer. Une canule respiratoire a été introduite dans une bronche par une incision dans la trachée. Il est nourri par une sonde gastrique qui pénètre directement dans l'estomac.
« Simone, tu vas lui parler quand il se réveillera et... »«
Ce n'est pas possible de le réveiller, »
interrompt-elle d'une voix stridente.
« Il est dans le coma, Eric. Son cerveau est endommagé. Il a perdu trop de sang. Il ne se réveillera plus jamais. Il ne parlera plus jamais. »
Elle essuie les larmes de ses joues.
« Il faut qu'on sache ce que Benjamin a dit. »«
Arrête !»
crie-t-elle en éclatant en violents sanglots. Une infirmière passe la tête, voit Eric serrer le corps tremblant de Simone et les laisse tranquilles.
« Je vais lui faire une injection de zolpidem, » chuchote Eric à son oreille. « C'est un sédatif puissant qui peut réveiller les personnes d'un état comateux. »
Il la sent secouer la tête.
« De quoi tu me parles ?»«
Ça ne fonctionne qu'un petit moment. »
« Je ne te crois pas, »
dit-elle d'une voix hésitante.
Le sédatif ralentit les processus hyperactifs au niveau du cerveau qui sont à l'origine du coma.
« Et il se réveillera? Tu es sérieux ?»«
Il ne se remettra jamais. Il a de grosses lésions cérébrales, Sixane. Mais avec ce sédatif, il se réveillera peut-être quelques secondes. »«
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?»
Parfois, les patients à qui l'on a administré ce produit peuvent dire quelques mots. Parfois seulement adresser un regard.
C'est illégal, non?
Je ne compte pas demander l'autorisation. Je compte juste le faire, et toi, tu dois lui parler quand il se réveillera.
Dépêche-toi, dit-elle.
Eric fonce chercher l'équipement nécessaire. Simone reste près du lit de Schulman et prend sa main. Elle le regarde. Son visage est serein. Les traits marqués sont presque effacés par la relaxation. La bouche, habituellement si ironique et sensuelle, est inexpressive. Même la ride sérieuse entre ses sourcils a disparu. Elle caresse lentement son front. Elle se dit qu'elle va continuer à exposer ses œuvres, qu'un véritable artiste ne meurt jamais. Eric revient dans la chambre. Sans un mot, il s'approche de Schulman et, dos à la porte, remonte calmement la manche de sa chemise d'hôpital.
« Tu es prête ?»«
Oui. »
Eric sort la seringue, l'introduit dans le cathéter intraveineux, puis commence l'injection. Le liquide jaunâtre et huileux se mélange lentement au liquide clair et disparaît vers l'aiguille dans le pli du bras pour pénétrer dans le système sanguin de Schulman. Eric fourre la seringue dans sa poche, déboutonne sa veste et déplace ensuite les électrodes de Schulman sur sa propre poitrine. Il retire ensuite la pince posée sur l'index de Schulman et l'attache au sien. Il observe alors le visage de Schulman. Il ne se passe absolument rien. Le ventre de Schulman monte et descend, mécaniquement, à un rythme régulier, sous l'effet du respirateur. Eric a la bouche sèche. Il se sent frigorifié.
« On y va ?»
demande Simone après un moment.
Attends, chuchote Eric.
Le tic-tac de sa montre égrène les secondes. À la fenêtre, un pétale tombe d'une fleur. Il atterrit sur le sol dans un léger bruissement. Quelques gouttes de pluie heurtent la vitre. On entend le rire d'une femme dans une chambre au loin. Un sifflement étrange provient du cœur de Schulman, comme un vent faible soufflant à travers une fenêtre mi-close.
Simone sent la transpiration dégouliner de ses aisselles et descendre le long de son corps. Elle a un sentiment de claustrophobie, comme si elle était coincée. Elle voudrait fuir la chambre, mais elle ne peut plus décrocher son regard du cou de Schulman. C'est peut-être son imagination, mais elle a soudain l'impression que l'artère épaisse bat plus vite. Eric respire lourdement. Il se penche sur Schulman. Il semble nerveux, se mord la lèvre inférieure et regarde de nouveau sa montre. Il ne se passe toujours rien. Le respirateur siffle mécaniquement. Quelqu'un passe devant la porte. Les roues d'un chariot grincent, puis le silence retombe dans la pièce. Le seul bruit provient du travail rythmique de la machine. Soudain, ils entendent un faible grattement. Simone ne comprend pas d'où ça vient. Eric fait quelques pas sur le côté. Le grattement persiste. Simone réalise que ça doit provenir de Schulman. Elle s'approche de lui et voit que son index remue contre le tissu tendu du drap. Elle sent son pouls s'emballer et, tandis qu'elle s'apprête à dire quelque chose à Eric, Schulman ouvre les yeux. Il la fixe avec un regard étrange. Sa bouche s'étire en une grimace effrayée. La langue remue mollement et de la salive coule le long de son menton.
« C'est moi, Sim, c'est moi !» dit-elle en prenant sa main dans les siennes. « Je vais te demander des choses très importantes. »
Les doigts de Schulman frémissent doucement. Elle sait qu'il la voit. Soudain, ses yeux roulent en arrière, sa bouche s'étire et les veines sur ses tempes se mettent à battre frénétiquement.
« Tu as répondu au téléphone quand Benjamin a téléphoné, tu te souviens ?»
Eric, qui porte les électrodes de Schulman sur sa poitrine, voit son propre rythme cardiaque s'accélérer sur l'écran. Les pieds de Schulman vibrent sous le drap.
« Sim, tu m'entends ?» demande-t-elle. « C'est Simone. Tu m'entends, Sim ?»
Ses yeux reviennent, mais glissent immédiatement sur le côté. Des pas rapides résonnent dans le couloir devant la porte. Une femme crie quelque chose.
« Tu as répondu à mon téléphone !» répète-t-elle.
Il hoche faiblement la tête.
« C'était mon fils !» poursuit-elle. « C'était Benjamin qui téléphonait. »
Ses pieds se remettent à trembler. Ses yeux roulent en arrière et sa langue glisse de sa bouche.
« Qu'est-ce que Benjamin a dit ?» demande Simone.
Schulman déglutit, mâche lentement. Ses paupières se baissent.
« Sim, qu'est-ce qu'il a dit ?»
Il secoue la tête.
« Il n'a rien dit ?»«
Bah !»
chuinte Schulman.
« Qu'est-ce que tu as dit ?»
« Bah, Benja !»
dit-il à peine audible.
« Il n'a rien dit ?»
demande Simone.
« Pas lui !»
dit Schulman d'une voix suraiguë et remplie de terreur.
« Quoi ?»«
Aussi !»
« Qu'est-ce que tu dis ?»
demande-t-elle.
« Et aussi a téléphoné !»
La bouche de Schulman tremblote.
« Où est-ce qu'il se trouvait ?»
demande Eric.
« Demande où se trouvait Youssi. »
« Où est-ce qu'il était ?»
demande Simone.
« Tu le sais ?»«
Chez lui !»
répond Schulman d'une voix aiguë.
« Est-ce que Benjamin était là-bas aussi ?»
La tête de Schulman tombe sur le côté. Sa bouche se relâche, son menton s'affaisse. Simone regarde Eric angoissé. Elle ne sait pas quoi faire.
« Est-ce que Lydia était là ?»
demande Eric. Schulman ouvre les yeux. Il glisse sur le côté.
« Est-ce que Lydia était là ?»
demande Simone. Schulman hoche la tête.
« Est-ce que Youssi a dit quelque chose au sujet de... »
La voix de Simone s'éteint quand Schulman commence à gémir. Elle lui caresse tendrement la joue et soudain, il la regarde dans les yeux.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»
demande-t-il, parfaitement lucide, avant de retomber dans le coma.